Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
S'ils reconnaissaient lui avoir porté des coups, ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur ressentie dans le sas.
Ils ont paniqué, c'est ainsi que les quatre policiers expliquent la pluie de coups infligés à un producteur de musique. Tous sont mis en examen, deux ont été écroués cette nuit. Enfin de l'air, nous avons tous retrouvé un peu de liberté ce week-end, celle de retourner dans les magasins, de refaire du sport, en plein air, à plus d'un kilomètre de chez soi. Premières impressions à Bordeaux, Marseille et Paris. Pas plus de 30 personnes lors des célébrations dans les églises, mesure retoquée par le Conseil d'État, certains catholiques s'en félicitent.
Nous autres cathos, on nous dit on vous tape dessus, vous tendrez l'autre joue. Eh ben non, c'est pas forcément un bon principe, vous voyez.
Dans ce journal, nous ouvrirons un dossier sur ces centaines de milliers de femmes qui ont manifesté ce week-end pour défendre l'avortement, notamment en Pologne. Et puis ça restera l'image la plus incroyable du week-end. Le pilote de Formule 1 Romain Grosjean qui sort indemne de sa voiture en feu, coupé en deux. Il peut dire merci au système de sécurité qui équipe les monoplaces.
Juste après ce journal, ce sont vraiment d'autres voitures dont on va parler. Pas besoin de choisir entre le thermique et l'électrique. Les voitures hybrides rechargeables, on le vend en poupe. L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette, le retour de la légende Mike Tyson sur un ring à 54 ans. Mais pourquoi faire l'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux policiers dorment en prison cette nuit, un brigadier et un gardien de la paix impliqués dans le déchaînement de violence contre le producteur de musique Michel Zecler. Deux autres, eux aussi mis en examen, restent libres sous contrôle judiciaire, dont celui qui avait lancé une grenade lacrymogène dans le studio de musique.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Pendant leurs auditions en garde à vue, ils ont expliqué leurs actes par un sentiment, la peur.
Oui, les trois policiers ont affirmé en garde à vue qu'ils avaient paniqué dans le local exigu dont ils n'arrivaient pas à s'extraire et qu'ils avaient eu du mal à maîtriser Michel Zecler. Ils ont aussi réfuté les autres chefs d'accusation, comme l'a détaillé hier le procureur de Paris, Rémy Hetz.
S'ils reconnaissaient lui avoir porté des coups, ils expliquaient ceci par l'attitude de ce dernier et les circonstances de l'interpellation. Ils contestaient avoir tenu les propos racistes dénoncés par la victime et corroborés par le témoignage d'un des jeunes présents derrière la porte du SAS. Ils réfutaient le caractère mensonger du procès-verbal d'interpellation. Ils finissaient cependant par admettre que les coups portés n'étaient pas justifiés et qu'ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur ressentie dans le sas.
Des coups disproportionnés, c'est en effet plus proche de ce que montrent les images de la vidéo. La scène des violences, à proprement parler, dure 6 minutes et malgré les bons états de service des policiers soulignés par le parquet, ce dernier a surtout insisté sur le trouble exceptionnel à l'ordre public et sur la gravité des faits.
Chloé Triomphe, aujourd'hui Gérald Darmanin doit être entendu par la commission des lois de l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur reviendra à la fois sur le maintien de l'ordre en général et sur la loi de sécurité globale contestée dans les rues samedi un peu partout en France. 80 policiers et gendarmes ont été blessés, 81 personnes arrêtées.
C'est un petit vent de liberté qui a soufflé sur notre pays ce week-end. On a pu s'éloigner jusqu'à 20 km et pendant 3 heures.
Stéphane Place, vous êtes en direct de Bordeaux. En Gironde, les golfeurs s'en sont donnés à cœur joie.
Oh, doux euphémisme au regard des conditions météo. Ici en Gironde, les golfeurs ont profité tout le week-end de fairway baignant dans une douce lumière automnale. 16 degrés en début d'après-midi, la joue caressée par le soleil, l'œil sur le drapeau. Un coup de fer neuf pour coller la balle sur le green. Le bonheur retrouvé pour ces deux adeptes de la petite balle blanche. Deux golfeurs que j'ai rencontré au golf de Villeneuve-d'Ornon.
Alors, je suis à 19 km 200 du domicile. Ah ben, j'ai interrogé le GPS. Alors, le premier plaisir, c'est de retrouver les amis sur le parcours et en fait, le plaisir de retrouver du vert.
Beau temps, une sensation de liberté. On n'a plus ces contraintes d'une heure pour se déplacer, donc c'est hyper agréable. C'est une passion avant tout. Le bienfait, c'est surtout à la tête.
Et voilà, et ça claque, précaution sanitaire oblige, on n'enlève pas, donc on ne touche pas les drapeaux sur les greens par exemple. Et comme on a 3 heures, on ne joue pas 18 mais 9 trous au maximum.
Direction Marseille, avec vous Stéphane Frangy, il ne faisait peut-être pas assez chaud pour bronzer, mais il y avait du monde de retour sur les plages.
Mais bien sûr, pourquoi s'en priver quand le soleil est de la partie en plus et puis y être allé, autant se jeter à l'eau, mais en douceur car elle reste assez fraîche.
Ouais, moi j'ai nagé. Elle est froide.
Elle est pas chaude. Ouais, j'ai l'impression qu'elle faisait 8 degrés. Voilà, et on a pris le petit café sur la plage avant de se baigner. En plus, avec la douceur du climat, vraiment c'est très agréable et ça fait du bien.
Ça vous avait manqué ?
Oui, beaucoup. Parce qu'on était à 1,5 km de la plage, donc on n'est jamais allé en fait. On a vraiment respecté scrupuleusement les consignes.
Voilà Christelle et sa fille Marine qui n'étaient pas les seules à vouloir marquer le coup de la sorte, même si la plupart se contentaient de marcher tranquillement en l'eau, au niveau des cuisses, pas plus, ce qui est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal en effet. La plage, l'air pur, c'est bien. Les magasins, ce n'est pas mal non plus. Après 4 semaines de fermeture, les Franciliens ont pu commencer leurs emplettes de Noël, autrement que sur Internet, pour de vrai, Pierre Herbulot.
Oui, et ça aussi, ça fait du bien. Il y avait ce petit truc en plus dans l'air, comme un goût de fête de fin d'année avant l'heure, entre les illuminations à la nuit tombée, les passants, les bras chargés de sacs et surtout le sourire sur leur visage, comme celui communicatif de Charlène, heureuse de voir les commerces rouvrir pour faire ses courses de Noël.
Franchement, ça fait très 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 plaisir. On a envie d'acheter des cadeaux, de faire... De se promener, donc vraiment ça fait vraiment du bien. Moi je suis trop contente, voilà.
Et Charlène était loin d'être seule. Le centre commercial de La Défense, par exemple, l'un des plus grands d'Europe, a accueilli presque autant de public que l'an dernier à la même période. Alors avec le protocole sanitaire, ça fait quelques files d'attente, notamment devant les magasins de jouets et les vendeurs de sapins. Mais au moins, c'est ouvert.
Merci à tous les trois. Pierre Herbulot à Paris, Stéphane Place à Bordeaux et Stéphane Frangy à Marseille. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, affirme que le week-end a été bon dans les commerces. A priori, ce sont les grandes villes qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu. Les détails dans le journal de 8h.
7h06 sur Europe 1. Ce week-end, les églises ont pu reprendre leurs célébrations religieuses, mais avec 30 personnes maximum, quelle que soit la capacité d'accueil de l'édifice.
Mesure que l'Église catholique trouvait disproportionnée, discriminatoire. Message reçu par le Conseil d'État qui ordonne au gouvernement de faire marche arrière dans les 3 jours. Et pourtant, dès ce week-end, certaines paroisses sont passées outre la jauge des 30 personnes, comme hier à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris où s'est rendu Nicolas Feldman.
À l'entrée de l'édifice, derrière une grande porte en bois, des bénévoles placent les fidèles, distribuent du gel hydroalcoolique. Mais ici, pas de jauge de 30 personnes. La limite est fixée à 30% des capacités de l'église. Ils sont donc une centaine à l'office. Marguerite s'y sent néanmoins en sécurité.
C'est tout à fait raisonnable. Il y a un rang sur deux déjà qui est neutralisé. Et le rang qui est en principe opérationnel, c'est une place sur 6. En fait, on est revenu à la disposition des lieux au déconfinement, c'est-à-dire au mois de mai. Nous autres, cathos, on nous dit on vous tape dessus, vous tendrez l'autre joue. Eh ben non, c'est pas forcément un bon principe, vous voyez.
Jean-Pierre Chaussade, le diacre du diocèse de Paris, n'irait pas jusqu'à réécrire un passage de l'Évangile. Il réclame simplement l'équité.
On a le souci de la santé des Français. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir les mêmes règles que tout le monde. Dans les magasins, pour moi, c'est une question de justice.
Les fidèles seront fixés dans quelques jours. Le nouveau protocole sanitaire doit être présenté d'ici mercredi.
Nicolas Feldman.
On a beaucoup parlé depuis le début de la crise sanitaire de toutes ces professions en première ligne, les personnels de santé, les petites mains. Pourtant, d'autres ont aussi travaillé davantage, mais sans qu'on le sache vraiment. Les cadres.
Oui, c'est ce que montre un sondage Via Voice qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Vous le détaillez pour nous, Olivier Samin. 6 cadres sur 10 considèrent que leur charge de travail s'est alourdie.
Ils ont souvent été en première ligne dans les entreprises pour réorganiser le travail quand la crise sanitaire a surgi, en particulier au moment du premier confinement, quand il a fallu agir en urgence et mettre au point un fonctionnement nouveau et pas forcément testé. La conséquence apparaît clairement dans l'enquête Via Voice publiée ce matin. 61% des cadres considèrent que leur charge de travail a augmenté cette année par rapport à l'année dernière, avec, pour un grand nombre d'entre eux, 4 sur 10, des horaires qui ont dépassé 45 heures par semaine. Ils sont même 6 sur 10 à reconnaître qu'ils ont dû travailler pendant leurs jours de repos. Et la reconnaissance salariale n'a pas suivi, disent 61% des cadres. Un sentiment en hausse de 6 points par rapport à l'année dernière. Sentiment plus marqué chez les femmes que chez les hommes, plus marqué aussi dans la fonction publique que dans le secteur privé. L'autre gros enseignement de cette enquête, c'est le fait que les cadres sont de plus en plus nombreux à avoir le moral en berne. 69% pensent que leur évolution professionnelle sera nulle, voire négative, dans les années qui viennent. C'est 4 points de plus que l'an dernier.
Olivier Samin.
Il y a 45 ans, l'avortement était légal. légalisée en France. Un combat porté par Simone Veil, vous le savez. Aujourd'hui, en 2020, ce droit est loin d'être un acquis dans de très nombreux pays, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis. Dossier qu'on ouvre ce matin avec vous, Pauline Jacquot. Bonjour.
Bonjour.
En Argentine, où le sujet divise profondément le pays, le combat avance. Les débats sur la légalisation de l'IVG s'ouvrent cette semaine au Congrès.
Oui, aujourd'hui, le droit à l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol ou de danger pour la santé de la femme. Le projet de loi porté par le président au pouvoir est totalement inédit en Argentine. C'est un élément déterminant pour la victoire, selon la militante Céleste MacDougall, au micro de notre correspondante à Buenos Aires, Audevillier-Moriami.
C'est très émouvant qu'un président se déclare pour la première fois en faveur de la légalisation de l'avortement et qu'il présente un projet de loi en ce sens. C'est une vraie avancée qui a lieu grâce au combat que l'on a mené avec la campagne pour le droit à l'avortement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le pouvoir législatif réponde à cette demande de la société. Le pouvoir exécutif l'a fait maintenant, c'est au tour du Congrès.
Autre continent, autre pays, la Pologne, où l'on s'est encore mobilisé ce week-end contre le fait d'interdire l'IVG en cas de malformation du fœtus. Aujourd'hui en Pologne, une femme peut avorter en cas de viol, de danger pour sa santé et de cette troisième option, la malformation du fœtus. C'est 98% des IVG. Option est déclarée illégale par le tribunal constitutionnel, ce qui a jeté des milliers de personnes dans la rue depuis plus d'un mois, comme Magdalena.
Beaucoup de petites villes, villages, aussi dans les campagnes, il y avait des manifestations, il y avait des filles, et pas seulement les filles, des gens qui ont commencé à manifester contre ce gouvernement. L'avortement en Pologne a devenu le symbole de la liberté.
À ce stade, la décision du tribunal n'est toujours pas appliquée dans le pays.
Autre combat, autre continent, Pauline, les États-Unis où les anti-avortements ont gagné du terrain sous la présidence de Donald Trump.
Oui, les lois se sont durcies dans plusieurs États du Sud et la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême pourrait remettre en cause le droit à l'avortement. Si tel était le cas, Joe Biden a déjà annoncé vouloir promulguer une loi fédérale.
Et pendant ce temps-là, en France notamment, la pandémie a fragilisé le droit à l'avortement.
Oui, parce que les femmes ont eu du mal à obtenir des rendez-vous. Pas assez de médecins, trop d'attentes. Même chose, même situation en Italie, en Allemagne. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont dépassé les délais légaux. Une initiative a été prise au Royaume-Uni. Le gouvernement a décidé d'autoriser les rendez-vous par téléphone et d'envoyer par la poste des pilules abortives.
Un dossier signé Pauline Jacquot. Merci. Et sachez qu'aux États-Unis, Joe Biden vient d'annoncer la composition de son équipe de communication à la Maison-Blanche. Elle est 100% féminine, une première dans le pays.
Le pilote de Formule 1, Romain Grosjean, est un miraculé. Et le mot n'est pas trop fort. Hier, lors du Grand Prix de Bahreïn, sa monoplace s'est embrasé après avoir heurté le rail de sécurité à 220 km/h.
Et après 28 secondes d'angoisse, il est sorti de la voiture sain et sauf. Il ne souffre que de légères brûlures aux mains. Depuis son lit d'hôpital, il a remercié le halo, cet arceau qui protège la tête des pilotes et lui a sans doute sauvé la vie.
Je n'étais pas favorable à l'arceau de sécurité il y a quelques années, mais je pense que c'est une grosse avancée pour la F1. Sinon, je ne serais pas en mesure de vous parler aujourd'hui.
Les mesures de sécurité ont en effet été très largement renforcées ces dernières années, Axel May.
Une voiture coupée en deux qui se transforme en boule de feu. L'image renvoie aux années terribles de la F1, époque Niki Lauda, où les accidents étaient souvent mortels. Mais notamment sous l'impulsion de son président, le français Jean Todt, la Fédération internationale de l'automobile a considérablement renforcé les règles de sécurité. Éric Boulier a dirigé Romain Grosjean sous les couleurs de Lotus. Il est l'actuel patron du Grand Prix de France et constate l'évolution de la sécurité sur les circuits.
Déjà, ça a commencé par cette fameuse cellule de survie qui a rempli pleinement son rôle aujourd'hui. C'est simplement un caisson en carbone en fait, hein, qui a été conçu pour protéger le pilote en cas d'impact. Le pilote, lui, doit porter par réglementation ce que des vêtements en Nomex. Donc c'est un matériau en fait qui protège contre le feu pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes.
Il y a aussi l'arceau de sécurité peu esthétique mais efficace qui a été rajouté au-dessus de l'habitacle et qui a sans doute évité le pire hier à un autre pilote, le Canadien Lance Stroll, sorti sans dommage de sa F1 qui s'était pourtant retourné.
Axel May, un grand prix remporté par Lewis Hamilton.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.